À toutes et à tous, chers auditeurs, chères auditrices, vous écoutez Cause Commune, et plus précisément, la Casa de Babel. Je profite de l'entame de ce 9e numéro de l'émission pour vous souhaiter une très bonne année 2019. Assez tardivement, certes, mais la dernière émission avait eu lieu en 2018, donc c'est l'occasion pour moi de vous le souhaiter. J'imagine que vous avez pris les meilleures résolutions pour 2019, mais je crois qu'il en est une qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est celle d'écouter Cause Commune chaque jour et d'écouter la Casa des Babels chaque semaine, bien entendu. Cette année, nous aurons un format raccourci, avec non plus 5 reportages par émission, mais 3 ou 4, ce qui permettra de faire des reportages plus longs, d'une part, et de laisser un peu plus de repos à tous nos contributeurs. Je rappelle que cette émission se fait grâce à la participation de plus de 50 étudiants en échange à travers le monde, qui nous font part de leurs expériences, de la culture locale, des mouvements sociaux ou politiques qui peuvent se produire sur place. Aujourd'hui, nous parlerons de musique à Vienne, nous parlerons de drogue en Colombie et de loyer à Londres. Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver et j'espère que vous allez apprécier ce numéro autant que j'ai apprécié écouter les reportages des étudiants qui nous les fournissent. Et on va commencer avec le reportage d'Antoine Meyer à Vienne.
Fonçant dans la nuit viennoise sur un vélo acheté sur l'équivalent germano-autrichien de leboncoin.fr, un coup de sifflet, aussi puissant qu'inattendu, effectué par une silhouette jaune contrastant avec l'obscurité, me tira de ma léthargie. Ce M&M's monté sur Doc Martens et muni d'un béret m'intime à l'ordre de stopper net mon véhicule aux émissions sonores et carboniques pourtant si faibles. Devant la couleur dont était paré mon interlocuteur, j'ai cru mon heure venue. Et attendait non sans crainte qu'on vienne enfoncer à coups de bulldozer mes roues ou mon guidon à défaut d'être muni d'une porte ministérielle. Mais rien de tout cela, non, il s'agissait en fait d'un agent de la marée chaussée qui n'entravait mes libertés de respecter la planète que pour vérifier à l'aide de ce que quiconque nommerait un ballon que je n'avais pas abusé de toutes sortes de décoctions plus ou moins faciles à ingérer. Une fois son forfait accompli, il se retourna vers ce qui semblait être son supérieur hiérarchique, lui aussi paraît d'un jaune à faire pâlir les cités d'or elles-mêmes et se fendit d'un « Alles klar, Herr Kommissar ». Et alors que j'enfourchais mon bolide, prêt à repartir dans la nuit, nos deux représentants des forces de l'ordre furent pris d'un fou rire d'une intensité incroyable, et étant déçu de ne pas participer à cette euphorie, je profitais de la pause que m'octroyait un feu rouge pour me renseigner sur la raison de celle-ci, et voilà ce que j'ai découvert. C'est avec un plaisir non dissimulé qu'aujourd'hui, nous allons faire un bond dans le temps. Un bond qui nous ramène au 19 février 1957, année qui vit naître non seulement Spike Lee et Mimi Mati, mais aussi Oussama Ben Laden, mais c'est dans une maternité de la capitale autrichienne que les cris du petit Johann Hölzel retentissent. Sans que personne ne se doute que ces mêmes cris seront 20 ans plus tard, ceux que d'aucuns considèrent comme le plus grand rappeur autrichien. En choisissant comme nom de scène le prénom du sauteur à ski est-allemand, Falco était né. Falco, c'est celui qui a contribué au rayonnement de la langue de Goethe en étant le seul chanteur germanophone devenu numéro 1 aux États-Unis en 86 avec Rock Me Amadeus. Falco, c'est celui que le considère comme le premier, je cite, « rappeur blanc ». Falco, il est viennois, et dans la capitale, comme en Autriche, il est devenu un mythe. Il commence à faire parler de lui avec son titre « Ganz Min », littéralement « Tout Vienne », et si je vous traduis cet extrait, cela donnerait « Il marche dans la rue, ne disant pas où il va, sa tête est pleine de heavy metal, son foie est foutu, ses veines sont ouvertes et sentent le formol. Tout ça ne lui donne pas le chagrin, car il est à Vienne. » Vous comprendrez probablement pourquoi la radio de l'époque a décidé de censurer le titre, qui devint par la même occasion un hit underground de la scène viennoise pendant un temps et permit à l'artiste d'être repéré. C'est réellement en 1982, avec la sortie de l'album Eins und Haft, que Falco sera propulsé sur la scène internationale, avec des percées significatives en France, au Canada, aux États-Unis et au Guatemala. Et c'est dans cet album que l'on retrouve, vous allez le voir, le célèbre Alles klar, Herr Kommissar. Je vous laisse écouter. Thank you.
alles klar, Herr Kommissar. Tja! 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 Tja!
Après quelques années de doute, il revient avec un troisième album, Falcodrae, incluant le titre Rock Me Amadeus, toujours détenteur du record de classement pour un titre germanophone puisqu'il a terminé premier du US Billboard Hot 100. Dans un style assez différent de l'album précédent, Rock Me Amadeus, c'est ça. Dans une interview de 1986, il dira qu'il était très important pour lui de faire de l'allemand une langue musicalement internationale, en adaptant le rap à une langue, je cite, « pleine de consonnes ». Le défi est moyennement réussi, puisqu'il est malheureusement toujours le seul à l'avoir relevé. Malgré sa mort d'un accident de voiture en 1998, Falco reste, encore aujourd'hui, une icône dans le paysage culturel autrichien. Bien rangé entre Klimt, Schubert, Mozart et évidemment Schwarzy, s'il ne fallait citer que parmi tous ceux qui contribuent au rayonnement d'un pays, dont un des gadgets touristiques le plus vendu stipule sur un fond décidément jaune, non, il n'y a pas de kangourou en Autriche.
Merci à Antoine Meyer pour ce reportage qui ouvre donc l'année 2019 de La Casa des Babel. Je ne connaissais pas personnellement Falco, peut-être suis-je inculte, mais ce court passage qu'on a eu le plaisir d'écouter me laisse déjà à penser que je suis passé à côté de quelque chose. Nous allons tout de suite enchaîner avec le second reportage de l'émission, réalisé par Camille Bouju depuis Bogota. Elle a essayé d'en apprendre plus sur la drogue, le trafic de drogue et le traitement que les politiques ont de cette question en Colombie. Camille Bouju, pour Cause Commune.
Victime de son image, la Colombie doit à la drogue sa renommée internationale peu valorisante. Par sa longue histoire chaotique et avec ses puissants cartels, le pays peine encore à redorer son image. La Colombie demeure un pays qui fait peur. Mais alors, qu'en est-il vraiment des drogues et du trafic dans le pays ? Aujourd'hui, vous l'aurez donc compris, ce sont sur les routes du pays d'Escobar et du trafic de cocaïne que je vous emmène. Enquête sur un pays meurtri par les drogues. Tout commence au début des années 60 lorsque le pays se lance dans la production de marijuana. Très vite, le gouvernement colombien s'empare du problème et la production de drogue est maîtrisée. Elle devient alors réservée à la consommation personnelle et non plus au trafic. Mais dans les années 70, les choses se compliquent. La production de feuilles de coca décline chez les plus grands producteurs, voisins de la Colombie, la Bolivie et le Pérou. C'est donc la Colombie qui, en quelque sorte, prend le relais. La Colombie est le pays idéal pour le trafic de drogue. Avec ses deux façades maritimes et ses 5 pays frontaliers, ce ne sont pas les routes commerciales qui manquent. De plus, avec l'instabilité politique du pays, certaines zones isolées ont été abandonnées par l'État et demeurent hors de son contrôle. Le commerce des drogues a donc profité de ces zones pour s'y installer durablement. À l'époque, le gouvernement a d'autres priorités, et le trafic de drogue ne représente ni un danger, ni un problème selon lui. Mais deux facteurs vont changer la donne. Tout d'abord, c'est l'entrée dans l'équation d'un acteur tierce, les États-Unis. En effet, très vite le pays se sent concerné car la majorité des drogues consommées à l'intérieur de ses frontières provient de la Colombie. C'est toute une économie souterraine qui s'est construite au fil des années entre la Colombie et les États-Unis. Et à ce titre, les États-Unis alarment le gouvernement colombien. Puis, en Colombie, les grands narcotrafiquants n'ont cessé de gagner en influence et en pouvoir sur les populations et tentent désormais d'entrer en politique. Ce sera le cas, par exemple, du fameux Pablo Escobar, qui parvient jusqu'à accéder au Sénat. Cette ambition nouvelle de la part du trafic de drogue devient une menace et fait peur au gouvernement, qui bien évidemment n'a aucune envie de céder sa place. Une longue guerre contre la drogue commence alors dans les années 80 entre l'État, les États-Unis et le narcotrafic. C'est grâce à l'aide économique des États-Unis et l'intimidation du traité d'extradition qui menace les narcotrafiquants d'être jugés aux États-Unis que le gouvernement colombien démantèle les gros cartels et réduit l'insécurité dans l'espace public liée notamment au terrorisme et à la violence du trafic de drogue. Mais malgré l'augmentation de forces policières et militaires du plan colombien de 1999, le trafic de drogue ne décline pas et c'est en partie à cause de la corruption. Aujourd'hui, la drogue demeure un problème ici. Bien que les guerres de cartels aient cessé, de nombreux microtrafics continuent de faire régner la peur, notamment chez les agriculteurs qui se voient forcés de continuer à cultiver la feuille de coca pour ne pas mettre en danger leur famille ou leur propre vie. En Colombie, la législation des drogues est en débat continu. Cette année, le nouveau président Duque prévoit d'abolir les doses de consommation personnelle autorisées et l'État poursuit sa guerre contre le trafic de drogue. À ce propos, une grande investigation et intervention a été menée cette année dans l'ensemble du pays. Des agents couverts se sont infiltrés pendant 6 mois dans diverses universités du pays et peu à peu, ils ont réussi à entrer en contact avec les différents réseaux qui utilisaient WhatsApp et des codes pour se protéger des autorités. En septembre, dans une intervention coordonnée dans l'ensemble des zones couvertes, ce sont plus de 162 personnes qui furent arrêtées pour trafic de drogue. À Bogota, c'est tout un réseau qui a été découvert au sein même de l'université de la Javeriana où certains étudiants, dealers auprès de collégiens notamment, cachaient la drogue. S'y trouvaient cocaïne, marijuana, ecstasy. Une affaire qui a provoqué le scandale et qui prouve qu'encore aujourd'hui, la Colombie n'est pas parvenue à faire du trafic et de la consommation de drogue quelque chose d'anormal ou d'immoral. Il reste toujours très facile de trouver de la drogue ici, et c'est ce que nous commente un étudiant qui a accepté de me parler de la drogue dans le pays.
La verdad, conseguir marihuana es demasiado fácil aquí en Colombia. No es necesario como tal tener un dealer.
La vérité, c'est qu'obtenir de la marihuana ici en Colombie, c'est beaucoup trop facile. Et d'avoir un dealer aussi. Parce que rien qu'au coin de la rue ou près des universités, enfin dans n'importe quelle partie du centre, tu en trouves partout. C'est vraiment très facile. Pour les prix, ce qu'on appelle un moño, qui représente plus ou moins 4,5 grammes de marijuana, ça coûte environ entre 1,90€ et 2,50€. Même si en ce moment, c'est un peu plus cher à cause du président Duque. Et puis, il y a vraiment beaucoup de personnes qui consomment de la marijuana en Colombie à cause de la facilité avec laquelle tu peux l'obtenir. Par exemple, il y a des parcs dans la ville, énormément de parcs, et tout le monde sait que les gens y vont pour fumer. Et donc, dans ces mêmes parcs, par exemple, si tu n'as pas de contact et que tu connais personne qui vend, bah là-bas, tu vas trouver qui peut te vendre. Mais pour obtenir des drogues comme la cocaïne, par contre, il te faut un dealer. La cocaïne, ça coûte environ 12€ le gramme, et franchement, c'est pas si cher que ce que l'on peut croire. Mais la marijuana, ça reste la drogue la plus facile à obtenir. Vraiment, c'est très facile. Et la vérité, c'est que la police ne sert à rien. Dans les zones où vivent, où travaillent, où étudient les gens des classes sociales les plus élevées, c'est beaucoup plus tranquille de consommer de la drogue. En fait, près des universités, la plupart du temps, la police, elle préfère ne pas s'interférer. Moi, je pense que c'est sûrement parce qu'ils ont peur d'embêter un étudiant qui soit l'enfant d'une personne importante et qu'au final, ça leur coûte leur travail. Mais il y a aussi d'autres cas dans lesquels la police, elle voit tout simplement pas l'intérêt de pénaliser ou de perquisitionner la drogue. Ils préfèrent accepter des pots de vin ou des trucs du style. Puis d'autre part, moi, j'ai l'impression qu'en Colombie, c'est comme un cycle. Tu vois, toi, tu achètes à quelqu'un, la police te prend ta drogue, la police la donne à son supérieur, qui va la donner au type qui te l'a vendue, et toi, tu vas l'acheter à nouveau. Au final, ces affaires, ce sont des gens très puissants qui le gèrent dans le pays. Alors, vous l'aurez compris, ici, les forces de l'ordre préfèrent fermer les yeux, permettant au trafic de drogue de prospérer dans le pays. Ainsi, la Colombie demeure le principal producteur de feuilles de coca et de cocaïne dans le monde.
Merci à Camille Bouju pour son très bon reportage. Nous allons marquer maintenant une pause musicale. Le prochain reportage sera à Londres. Nous allons donc écouter un groupe londonien qui a eu son heure de gloire dans les années 90 et qui est toujours en activité aujourd'hui, mais vous aurez certainement déjà entendu ce tube. Qui est une interprétation d'un morceau lui-même écrit dans les années 60. C'est Only Love Can Break Your Heart de Saint-Étienne. Vous êtes bien sur Cause Commune 93.1 en Ile-de-France, cause-commune.fm partout ailleurs. Vous venez d'écouter Only Love Can Break Your Heart de Saint-Étienne. Saint-Étienne qui est un groupe londonien, paradoxalement. C'est un nom étrange, mais j'ai trouvé le clin d'œil intéressant. D'une part parce que c'est un groupe londonien et d'autre part parce que le prochain reportage sur Londres a été fait par un Lyonnais. Voilà. Et comme on le sait, Lyon et Saint-Étienne entretiennent des rapports plus que cordiaux. Tout de suite donc, le dernier reportage de ce numéro. Il a été réalisé par Alexandre Butet, depuis Londres, qui essaye de nous rendre compte des difficultés que rencontrent les nouveaux arrivants dans la capitale anglaise quant au prix des loyers. Alexandre Butet, pour Cause Commune.
On ne peut manquer de superlatifs lorsque l'on partage son expérience de la capitale anglaise. Londres. Première ville européenne en termes de superficie et d'habitants, centre financier parmi les plus influents du monde et carrefour culturel où on a vu se croiser Amy Winehouse et Freddie Mercury, aussi bien qu'Harry Potter, Peter Pan, Sherlock Holmes et j'en passe. Mais il est un superlatif dont la résonance est plus amère dans l'esprit des habitants, c'est celui du coût du loyer. L'opinion commune le sait, vivre à Londres représente un investissement financier particulièrement élevé. Le journal du Net a récemment classé Londres comme étant la ville la plus chère du monde. Avec une augmentation des loyers de 1000% en 10 ans, elle passerait juste au-dessus de Monaco et New York. Réalité ou information erronée, je ne le sais pas, mais pour attester de la réalité du phénomène, j'ai fait un tour de table en demandant à des personnes autour de moi à combien s'élevait leur loyer mensuel.
Je paye 722 pounds.
C'est 650 livres sterling.
Je paye 708 pounds par mois.
Je paye 780 pounds par mois.
875 pounds.
850.
Puisque la ville attire chaque année plusieurs milliers de Français qui décident d'y établir domicile, je vous propose ici d'écouter quelques témoignages sur les obstacles potentiels qui se présentent sur la route des nouveaux arrivants. Lorsqu'on se prépare à habiter à Londres, plusieurs choix s'offrent à nous. En général, les étudiants tout juste arrivés choisissent l'option résidence universitaire. Un choix pratique, mais souvent très cher et pour un espace limité. En résidence, les loyers sont entre 1000 et 1300 livres et les chambres qui y sont proposées excèdent rarement les 10 mètres carrés. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de ce reportage, de rencontrer Marie, arrivée de Bruxelles il y a 2 ans dans une de ses résidences pour poursuivre des études de cinéma au King's College.
J'habitais à Urban Est Westminster, c'est une résidence semi-privée.
Tu payais combien par mois du coup
pour... Je payais 260 pounds per week.
Par semaine ?
Ouais, par D'accord. semaine.
C'est combien de mètres carrés ?
C'était 12 mètres carrés.
12 mètres carrés ?
Ouais.
D'accord. Est-ce que tu savais que tu voulais aller dans une résidence quand tu es arrivé à Londres ?
C'est la réputation qu'ont les résidences étudiantes, de rencontrer des gens des universités, de commencer à se faire un petit groupe, et en deuxième année, du coup, de faire une coloc quand on aura rencontré d'autres gens, quoi.
D'accord. T'as gagné de l'argent dans la coloc par rapport à quand tu habites en résidence ?
Oui, mais c'est le jour et la nuit. Les résidences étudiantes, c'est tellement cher, alors que les colocs, justement, c'est très avantageux niveau économie. Et en plus, c'est une super expérience.
Cool. Ouais. Si la solution résidence paraît pratique sur le court terme, la plupart des gens choisissent finalement de se tourner vers la colocation, et beaucoup passent par le biais de sites d'annonces. Mais il reste un problème de taille. Celui de la véracité de ces annonces. À partir du moment où il n'y a rien ou très peu de choses permettant de réguler véritablement ce qui peut être posté sur ces sites, le pouvoir est laissé au propriétaire d'agir de la manière dont il le souhaite. Tiphaine, aussi étudiante au King's College, a tenu à partager son expérience actuelle de la colocation et notamment de sa relation avec son propriétaire.
Je suis passée par un site internet d'annonces, mais pas du tout une agence, c'était directement, j'étais en contact direct avec le propriétaire. Lui, il a tous les droits, si demain il passe par là et il veut venir à l'intérieur de la maison, même dans les chambres, il a droit. Il a déjà fait.
Quand il vous arrive d'avoir un problème dans la maison ou quoi que ce soit, est-ce que c'est vous qui allez voir directement le propriétaire et il règle ça ?
Ça fait un an maintenant que ma fenêtre est cassée, donc... J'imaginais bien qu'en hiver à Londres, il fait pas très chaud. Donc, et que je réclame depuis un an qu'ils viennent réparer. Et ils me disent oui, on va le faire. Moi, à la fin, du coup, j'ai dit si vous voulez, j'appelle moi-même le réparateur et je le fais, vous payez juste. Et ils ont jamais voulu, ils veulent le faire eux-mêmes. Mais c'est toujours pas fait.
Les personnes voulant éviter ce genre de situation se tournent souvent vers des agences. Le problème, c'est que ces agences ne sont pas toujours dignes de confiance. Je vais ici prendre pour exemple mon expérience personnelle. Arrivé à Londres fin septembre 2018, dans le cadre de mon année Erasmus, je contacte une agence et obtiens un rendez-vous le lendemain de mon arrivée. Cette agence s'occupe de la location d'environ une centaine d'appartements dans Londres. Le jour de mon arrivée, on me propose une colocation à Elephant and Castle pour environ 550 livres par mois. L'agent me le présente comme un coup de fusil, une occasion à ne pas manquer du fait de mes critères niveau budget. Il me déconseille de le visiter, cela dit. Si je perds trop de temps, quelqu'un d'autre l'aura pris avant moi. De toute façon, me dit-on, l'état des lieux a déjà été fait il y a un mois. Je le prends, le contrat est signé. Le soir même, j'arrive dans l'appartement pour y trouver de la moisissure noire, quasiment toutes les lampes cassées, des cendres de cigarettes et de joints par terre, un mégot dans la cuvette des toilettes ainsi qu'une odeur nauséabonde, des poils et des chewing-gums un peu partout. Là, à l'aube d'une année qui se présente sous les meilleurs auspices, une pensée me traverse l'esprit. Je n'avais peut-être pas fait l'affaire du siècle. Après une nuit dans l'appartement, je me plains à l'agence et leur montre des photos. Surpris, devant l'état de l'appartement, ils s'excusent et m'en proposent un second. Ils me disent que dans ce nouvel appartement, deux des colocataires sont plus vieux et plus sérieux sur le ménage, et n'en reste pas moins très agréable. L'appartement est acceptable, je vis pour 760 livres par mois dans une chambre de 10 mètres carrés, au sein d'un appartement qui en fait environ 70, que l'on partage à 5. Mais dès le premier jour, un colocataire me convoque. Je n'ai pas le droit d'utiliser son étendage, son produit vaisselle, son étage du frigo ou quoi que ce soit qui lui appartienne. Très vite, les règles se durcissent. Il suffit que je parle avec un colocataire à 23h pour qu'il sorte dans le salon et nous insulte de tous les noms. Tous les soirs, lorsque sa femme rentre, les insultes fusent sur mes colocataires et moi-même dans un italien qui se laisse facilement comprendre. Je décide finalement de partir de la colocation et de rompre les ponts avec l'agence lorsqu'un dimanche soir tard et alors que je rentre discrètement, le même colocataire sort de sa chambre en furie, m'insulte et me laisse savoir qu'il me dénoncera à l'agence dès le lendemain. Dans le cadre de ce reportage, j'ai proposé à une amie de contacter l'agence en vue d'une interview où elle se présenterait comme une journaliste faisant un reportage sans toutefois mentionner mon nom ou présenter négativement le but de l'interview. Mais, sans lui donner de raison, l'agence a refusé de répondre à toute question. Voici donc quelques conseils pour les personnes ayant pour but d'établir un long séjour à Londres. La meilleure chose à faire est d'abord d'être sur place au moment de la recherche d'appartement, en effectuant par exemple un séjour au préalable avant de vous installer dans la capitale. Deuxième conseil, n'acceptez pas de prendre un appartement sans avoir pu le visiter, si possible avec le propriétaire et les personnes avec lesquelles vous allez habiter. Enfin, n'hésitez pas à contacter des connaissances éventuelles que vous auriez sur Londres ou passer par des groupes Facebook comme le Cercle des Français à Londres. En effet, le moyen le plus fiable de trouver une colocation reste de chercher à travers les groupes d'amis et de connaissances. S'il y a une réalité qui reste néanmoins constante, c'est celle du prix toujours très élevé des habitations. Et même si des rumeurs se font entendre sur une chute de l'immobilier en fonction des suites du Brexit, les débats quant au Brexit lui-même restent toujours trop partagés pour appréhender des impacts quels qu'ils soient sur le prix de l'immobilier. Il ne me reste plus alors que de vous remercier de votre attention et de vous souhaiter une bonne recherche.
Merci à Alexandre Butet pour cet excellent reportage, qui plus est sa première contribution à l'émission. Je sais que vous espérez l'entendre à nouveau. Il a une voix de radio, je trouve, et voilà, c'est plaisant d'avoir ce type de contributeur, ce type de voix, quand on réalise une émission comme celle-ci. Eh bien, ça a été un plaisir pour moi de vous retrouver avec ce 9e numéro de La Casa des Babel, et on se retrouve bientôt pour le 10e numéro de l'émission. Bonne journée à tous, bon week-end, et à très vite sur Cause Commune.